À votre santé, 211e émission de l'association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les amis du RVM, nous espérons que vous allez bien. Avec moi aujourd'hui,
Christian Max,
Daniel Cléo, bonjour les amis.
Et moi-même, comme d'habitude, Hélène Major. Alors, nous allons faire un petit tour d'infos aujourd'hui. Info, comme d'habitude, Christian, il appelle ça les nouvelles du front, du front de la santé.
Sanitaire.
Et vous verrez d'autres informations. Alors Christian, qu'est-ce que
alors,
tu nous
dis ? Alors, on va commencer par les gastro-entérites aiguës.
Ah, c'est agréable. Hein,
c'est sympa. Hein. Donc, le taux d'incidence de diarrhée aiguë rapporté par le réseau Sentinelle est stable par rapport aux semaines précédentes et correspond à un faible niveau d'activité par rapport à ceux observés habituellement en cette période. Donc ça va pas trop mal, et ça c'est Santé publique France qui le dit.
Ben écoute, tant mieux, parce que moi dans ma famille, il y en a eu plusieurs qui ont eu une gastro.
Oui. Bon. Mais ça m'étonne pas. Ouais. Alors ensuite, pour les infections respiratoires, alors la bronchiolite, les Hauts-de-France sont en situation post-épidémique, ça veut dire que le plus lourd est passé. Le Covid-19, ça continue à dégringoler tout doucement. Mais quand même, faut continuer à faire attention, faut pas oublier de se faire vacciner. Je rappelle quand même qu'on est à moins de 30% de vaccinés, hein, de gens qui devraient l'être. Hein, c'est quand même un peu embêtant. Et surtout, faut pas oublier les gestes barrières.
Oui, parce que, écoute, moi là, ce matin, il y avait une randonneuse qui était avec moi. Elle avait eu le Covid. J'ai dit, t'as pas été trop malade ? Elle me dit non, un tout petit rhume. Elle avait fait le test. Et voilà. Donc, c'est quand même, je veux dire, les effets de la vaccination et de l'épidémie aussi, de la pandémie, ont fait qu'on a quand même développé une certaine immunité.
Ah oui, l'OMS a dit d'ailleurs qu'il y aurait eu plusieurs millions de morts supplémentaires s'il n'y avait pas eu la vaccination.
Sûr.
Ouais.
Et je termine par la grippe. Alors là, on y est plein pot. Hein.
Ah.
Toute la France dans le rouge.
Bon.
Donc, vaccin.
On retrouve des situations qu'on a habituelles.
Connu, ouais. Hein. Okay. Alors, maintenant, je passe à une demi-bonne nouvelle. Le service de consultation non programmée de l'hôpital de Senlis fonctionne.
Mm-hmm. Très bien.
Apparemment, plutôt bien. C'est pas trop l'affluence. Mais par contre, bon, c'est que pour les premiers recours. Dès que c'est un peu sérieux, les gens sont renvoyés aux urgences de Creil, où là, ils auront le plaisir de patienter pendant plusieurs heures en attendant d'être pris en charge.
Ouais.
Bah, autrement et dit, qu'est-ce qu'ils font alors ?
Je disais une demi-bonne nouvelle, parce que celle qui est moins bonne, c'est que pour l'instant, on ne peut toujours pas rouvrir les urgences à Senlis.
Oui.
Non pas parce qu'on manque de matériel ou de locaux, mais parce qu'on manque de personnel.
Bien sûr. Bien sûr.
Et ça me rappelle des débats qui ont eu lieu récemment là, au niveau
tout
parlementaire.
À tout à fait. Alors, déjà qu'on avait parlé de l'AME, vous vous souvenez, chers auditeurs, auditrices, c'est-à-dire l'accès des étrangers à une aide médicale. Il faut rappeler que dans la Constitution française, tout le monde a droit, hein, quand on est un être humain en France, on a droit aux soins. Eh bien, figurez-vous, on manque de médecins d'un côté. Et de l'autre, on en met à la porte. J'ai lu un article qui m'a épouvantée, et de toute façon, on en a entendu parler. C'est 2000 médecins étrangers poussés vers la sortie. Pourquoi ? Donc, qui exercent en hôpital. Eh bien, parce que ces praticiens, alors vous allez entendre encore un sigle à la noix, excusez-moi l'expression, PADU. Alors, qu'est-ce que ça veut dire PADU ? Praticien à diplôme hors Union européenne.
Ah,
on n'est pas un vrai praticien quand on est hors Union européenne, n'est-ce pas, quand on vient d'ailleurs. Pourtant, pour exercer, il me semble qu'il faut quand même connaître la médecine. Sinon, ces praticiens, on ne leur demanderait pas faire des 70 heures par semaine. Je vous lirai tout à l'heure quelques témoignages.
Et d'être utilisés dans les hôpitaux.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que, figurez-vous, leur contrat touche à leur fin. Donc, pourquoi ils touchent à leur fin, leur contrat ? C'est que, alors qu'ils sont, donc je vous cite ce que dit l'un d'eux, qu'ils sont insérés depuis des années dans le système hospitalier français. C'est-à-dire que, on a trouvé qu'ils avaient la compétence de médecin.
Et qu'on avait besoin d'eux.
Et surtout qu'on avait besoin d'eux. Et il a dit qu'il n'a jamais cessé de valider des diplômes pour mieux soigner en diabétologie, sur les nouvelles technologies de pompe à insuline, en addictologie. Donc ça, c'est le témoignage d'un de ceux-là. Donc, ils font des études en parallèle, sachant qu'ils ont des services extrêmement lourds, tout le monde le sait, en milieu hospitalier. Eh bien, ce qu'ils disent, c'est que d'abord, tout se passe d'une manière, encore une fois, opaque, hein, au niveau administratif. Plus de 1000 praticiens, c'est-à-dire qu'ils pratiquent, les praticiens, étrangers travaillant aux urgences, se retrouvent sans rien. Le gouvernement, vraiment, c'est comme si la population, vraiment, elle n'a pas besoin d'être soignée, hein, ni l'hôpital public. Pourquoi ? C'est parce que, depuis 2020, des épreuves de vérification des connaissances. Alors, écoutez, ils sont en train de pratiquer, il leur faut quand même des épreuves de vérification des connaissances. Moi, j'avoue, je ne comprends pas bien, s'ils n'ont pas bien les connaissances en médecine, comment se fait-il qu'on les laisse soigner des malades ? Bon, on continue.
Oui, on les laisse soigner et après, on leur demande s'ils sont compétents.
Oui. Voilà. Un concours, donc ces épreuves, c'est un concours très sélectif. Un concours, ça veut dire qu'il y a un nombre de places limité. C'est pas en fonction de votre capacité et de vos connaissances. C'est qu'il y en aura tant qui seront pris. Eh bien, qu'il y a 20% de réussite. Alors déjà, c'est pas beaucoup de places. Il n'y a que 20% de réussite. Et c'est la seule voie pour accéder au plein exercice, c'est-à-dire comme les médecins français. Parce que, c'était instauré juste après le Covid, ce système. Et comme il avait suscité un tollé, je ne sais pas chez qui, ça a empêché des titularisations massives. Donc en fait, c'est la voie pour être titularisé et non pas vidé comme ça. Voilà. Et donc, ils sont aujourd'hui, en 2023, plus de 2000 à avoir échoué à ces fameuses épreuves. Alors, comme nous dit l'un d'eux, un de ces médecins qui les a ratés de très peu, il dit, pour avoir ces épreuves, il suffit d'apprendre bêtement. C'est comme si retourner à l'école primaire, n'est-ce pas, où on vous dit d'apprendre. Or, nous n'avons pas le temps. Je ne dis pas qu'on apprend bêtement à l'école primaire, parce que je trouve que les méthodes sont beaucoup plus actives.
J'allais rectifier.
Voilà, elles sont beaucoup plus actives. Mais on a l'impression qu'on les fait régresser dans l'enfance. Hein. Or, nous n'avons pas le temps de réviser avec le travail. Ce concours ne reflète pas notre niveau ni nos compétences. Ceux qui le réussissent sont souvent les médecins étrangers qui le préparent à distance, c'est-à-dire qui ne sont pas en pratique et qui donc ne s'enrichissent pas de leur pratique. Entre nous, l'expérience est quand même importante. Et nous avons en plus appris, écoutez bien, on a tellement de médecins, que 50% des places ouvertes ont été supprimées en médecine générale. Super, on a trop de médecins, vous le savez bien. Et il faut savoir qu'une fois qu'ils ont réussi ces fameuses épreuves très sélectives, ils enchaînent 2 à 4 ans de parcours de consolidation avant de finalement de devenir sous condition des praticiens hospitaliers. Franchement, comment on les traite ?
Ça s'appelle du malthusianisme.
Il y a une médecin là, qui était généraliste et qui était en gériatrie. Et sa première affectation, ça a été justement au moment du Covid. Elle était en première ligne, les fameuses premières lignes là, que notre président a félicitées, durant tout le Covid. Et elle pensait qu'après, elle pourrait avoir une régularisation après tout ce qu'elle avait fait et avec son dossier. Ben voyons, non. Il n'y a eu que 300 généralistes sur 4500 médecins qui ont été régularisés parmi tous ceux qui avaient été en première ligne. Bravo, bravo. Et donc, tous les 6 mois, elle devait redemander un titre de séjour pour avoir un renouvellement. Mais vous vous rendez compte, un médecin à qui on demande autant d'investissement dans le travail, hein, et qui doivent être comme ça suspendus à un renouvellement tous les 6 mois. Non, franchement, ils sont plongés dans la précarité, forcément. Hein, et alors, quelque chose sur leur rémunération. Autour de 2400 euros net, un médecin qui fait, alors je ne sais pas combien d'heures. Alors écoutez, il faisait 10 à 15 gardes par mois pour avoir un revenu correct. Non mais vous vous souvenez, des gardes, c'est la nuit. Hein, sans pouvoir prendre le repos de sécurité. On nous en demande encore plus vu notre parcours. Aujourd'hui, dans mon service de diabétologie, le seul du département, beaucoup de médecins sont pas dus. Ce que je viens de dire, praticien hors Union européenne. Et un seul a eu le concours. Autrement dit, les autres doivent partir. Voilà. Comment ce service va-t-il fonctionner? Donc on est vraiment, vraiment dans une situation ubuesque.
Et c'est la panique chez les directeurs d'hôpitaux qui se demandent comment ils vont fonctionner si la loi est appliquée, comme tu le dis. Hein.
Oui, parce qu'ils en ont besoin. Hein.
Tous les professionnels étrangers qui travaillent sur notre territoire, ils occupent des postes dont les autres ne veulent pas. Ok ? Dont les autres ne veulent pas.
Avec des vacations un peu.
Voilà, ils travaillent dans les déserts médicaux.
Ouais.
Donc, effectivement, on trouve que c'est scandaleux. Alors que, écoutez bien, aux Antilles et en Guyane, ceux qui sont comme eux, ces praticiens-là, ils peuvent exercer 10 ans. Ils ne sont pas obligés de passer le fameux concours. Donc c'est qu'on leur reconnaît les mêmes qualités. Ou alors ça veut dire que les Guyanais et les Antillais, ils n'ont pas besoin de médecins diplômés. Donc il suffirait donc de faire comme là, de contrôler leur niveau professionnel, de regarder leur dossier. Et ils seraient en stabilité. Donc là, c'est une grosse colère qu'on a. Franchement, une grosse colère. Hein. Donc, il y avait un médecin qui nous expliquait, enfin, c'est un témoignage, que lui travaille à l'hôpital de Nanterre en diabétologie. Eh bien, écoutez bien, du 25 décembre au 20 janvier, il n'a eu aucun jour de repos. Aucun. Il a enchaîné des semaines de 70 heures et les week-ends travaillés. Donc là, vraiment, c'est une surexploitation et aucune reconnaissance de la République, n'est-ce pas? Alors, je crois que tu as entendu quelque chose, Christian? Est-ce qu'ils vont revenir là-dessus? Je vous dis tout de suite, chers auditrices, auditeurs, il y a une pétition, évidemment, parce que, enfin, c'est tellement une folie et une injustice que il faut quand même... Alors, je ne l'ai pas vu encore. Si je la vois, je vous donnerai sa référence.
Oui, donc, ce que je disais, c'est que les directeurs d'hôpitaux sont extrêmement inquiets parce que si c'est appliqué, il va falloir fermer plein de services dans toute la France. Et donc, les bruits qui courent dans les couloirs, ça serait que finalement, ça ne serait peut-être pas appliqué si vite que ça, etc., etc. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel.
D'écrit.
Oui, ils vont peut-être laisser passer les élections européennes et après, paf, ils vont se révéler la vis. Hein. Les agriculteurs bougent, si en plus, dans le monde hospitalier, ça bouge, oulala.
Hein. Et à contrario, il y a plein de petits Françaises et Français qui font des études de médecine en Roumanie, par exemple. Il y a eu un reportage à la télé. Alors, ces gens-là qui vont revenir en France, est-ce qu'on va leur demander également 4 ans de remise à niveau? Ou est-ce qu'on va les titulariser tout de suite? Je ne sais pas. Parce que c'est vraiment un problème, ça. Tous ces jeunes qui s'en vont en Roumanie.
C'est chaotique.
Hein. Ils ont ouvert des universités francophones.
Mmh. Ouais. Alors, je crois que toi, tu as des choses aussi à nous dire, Daniel, hein, sur une autre catégorie de soignants.
Alors, si je vous dis IPA, vous aimez bien les sigles. Hein,
ouais, allez, raconte, hein, allez, qu'est-ce vous que aimez c'est bien. Que ça.
Alors, l'IPA, ça veut dire infirmier en pratique avancée.
Ah, mais on en avait parlé dans le temps.
On va certainement en avoir un ou une à notre centre de santé, avenue de Senlis, un de ces jours. On ne désespère pas. Non, mais Jean-Pierre Mounet est dessus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, l'IPA, donc, ça avait été créé en 2018, ce corps de métier. Et ça existait déjà aux USA, au Burkina Faso, au Japon, en Australie. Et puis, on s'est aperçu que finalement, c'était une solution qui était quand même valable. En France, par exemple, il y a 12 millions de personnes qui souffrent de maladies chroniques. Donc, pour des renouvellements d'ordonnance, on n'est peut-être pas obligé de voir un médecin généraliste. Donc, ces gens-là, qui sont infirmiers en pratique avancée, pourraient renouveler les ordonnances.
Peut-être tu peux nous préciser que s'ils ont ce titre de pratique avancée,
ils ont fait une formation de spécialisation.
Voilà. En plus de leurs 4 années d'études d'infirmier,
c'est deux ans, je crois. Ouais.
Deux années de plus en pratique avancée, parce que leur travail...
Voilà.
C'est quoi leur travail, Daniel ?
Ben, c'est d'être complémentaire du généraliste, même l'avant, le devancer, on va
ou
dire.
Ou même le supplanter, puisque... Ils peuvent examiner, ils font une consultation.
Oui.
Et donc, une consultation, ils ont, tous les éléments sur le patient, et s'ils ont besoin, ils font appel au médecin.
Absolument.
S'il n'y a pas besoin, ils renouvellent l'ordonnance.
Ils sont assez compétents pour renouveler de même.
Voilà.
Alors, il y a un petit problème, c'est les salaires qui ne suivent pas du tout. Là, on a un témoignage d'un infirmier en pratique avancée qui gagnait certains mois 700 euros. Donc, c'était impossible de boucler son budget.
On leur demande de remplacer des médecins.
Voilà. Alors bon, il y a une revalorisation de 23% qui est prévue par l'assurance maladie, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas...
Elle n'est pas arrivée.
Non, elle n'est pas arrivée. Donc, il y a des divorces, il y a des gens qui ont vendu leur voiture pour y arriver. Enfin, ça devient également un gros souci. Voilà.
Eh ben, c'est bien la peine de faire des études supplémentaires pour soigner mieux et puis arriver là.
Oui.
On est en colère des fois, franchement.
Oui, il y a tout un tas de choses qui sont illogiques.
La manière dont on traite des gens qui se consacrent à la santé et aux soins.
Et on cite l'exemple du Loiret où il y a 24% des habitants qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, ces infirmiers pourraient suppléer vraiment les médecins généralistes.
C'est peut-être ce qu'ils cherchent à faire.
Ça avance.
Et ce n'est pas tout à fait ce qu'il faudrait.
Voilà.
Bon, on en discutera. Ultérieurement, peut-être avec nos médecins du centre de santé, ce qu'ils pensent, eux, du rôle que pourrait jouer un infirmier en pratique avancée.
Voilà.
Bien, chers amis auditeurs, auditrices, avant de vous quitter, il faut quand même qu'on vous dise que le mois de janvier, comme d'habitude, ne peut pas se terminer sans notre Assemblée générale de l'Association citoyenne. Et donc, elle va avoir lieu, ou elle a déjà eu lieu, selon le jour où vous allez nous écouter. Avec un ordre du jour, comme toute association, bien entendu, pour faire le bilan de l'année écoulée, mais aussi, nous aurons tout un point sur où on en est par rapport à l'annexe 2B, où on en est sur le développement du centre de santé par le président de l'association de gestion, et aussi, nouveauté, création d'un comité des usagères et usagers du centre de santé. Nous vous en reparlerons, bien entendu. Nous informerons aussi sur la couverture médicale en psychiatrie dans le sud de l'Oise. Ouais. Vous vous souvenez que nous avons reçu M. Pouliot et que nous avons donc des choses à dire. Et bien entendu, nous parlerons de nos projets. Donc, voilà, chers amis.
N'oubliez pas, le 27 janvier, n'oubliez pas, à 9h.
On dit que c'est au mois de janvier et comme nous ne savons pas quand vous allez écouter émission, nous vous ferons un compte rendu après l'Assemblée générale et nous vous donnerons tous les éléments. Si vous voulez rejoindre notre association, on veut quand même vous le dire au passage.
Voilà.
Nous sommes passés de 60 adhérents en fin avril à 182 aujourd'hui.
182.
Donc, je crois que c'est une reconnaissance du rôle indispensable que doivent jouer les citoyennes et les citoyens pour prendre en charge leur santé. Nous avons assez, contesté des choix qui sont faits par ailleurs. Nous avons, nous, notre centre de santé et nous essayons de le développer avec, évidemment, les médecins et l'association. Vous pouvez nous écouter, comme d'habitude, le mardi à 13h, jeudi 16h et samedi, 10h30. Et ensuite, en podcast. Au revoir,
les amis.
Au revoir.